Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Dans cet épisode, je reçois Leslie Grano du compte SPM Ta Mère. On parle de son rapport douloureux à l'amour, de la perte de son premier compagnon alors qu'elle était enceinte de lui à 22 ans, de deuil et de la société qui a attendu d'elle qu'elle ne refasse pas sa vie, d'hommes qui ont besoin d'être rassurés par la faiblesse des femmes, de ses rencontres via les applications qui l'ont un peu brisée, de l'espoir de rencontrer quelqu'un spontanément dans la vraie vie, des femmes qui ont tendance à accepter beaucoup de choses de la part des hommes, du fait de dégager quelque chose d'intimidant, de son expérience avec un candidat de l'amour et dans le pré, et de sa peur de ne jamais revivre un amour fou. J'espère que cet épisode vous plaira. Un grand merci à Leslie pour sa sincérité dans nos échanges et sa confiance.
Salut, salut.
Les tests, ils sont toujours chelous au début. Salut, salut.
Moi, c'est Leslie.
Ça veut quoi?
Je viens juste pour vous dire que l'amour, c'est vraiment de la merde.
Oh mince, et le podcast est fini. Merci à vous, Leslie.
Adieu.
Et Louisy, tu veux dire quelque chose peut-être? Ok, est-ce qu'on est prêt?
Yes, on est prêt.
Moi, tout roule. Alors, je suis avec Leslie aujourd'hui. Je suis trop contente de te rencontrer. C'est la première fois que je te rencontre. Je suis ton travail depuis un moment. J'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter, me dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie?
Alors, déjà, moi aussi, je suis très contente de participer à ce podcast. L'amour, c'est un sujet qui me touche vachement, donc du coup, je suis ravie. Moi, je m'appelle Leslie Grano. J'ai deux comptes Instagram. J'ai un compte Instagram sur les syndromes prémenstruels, particulièrement sur les problématiques de santé mentale liées à l'arrivée des menstruations. Et j'ai un autre compte qui est plus lifestyle, qui est plus classique, on va dire. Mais en tout cas, j'ai pris le parti de faire du lifestyle sans être un profil parfait. Donc, je parle de santé mentale, d'envie de suicide, de dépression, de mes jours où je suis bien et de mes jours où je suis moins bien. Parce que je trouve que c'est cool de faire du lifestyle, mais c'est cool aussi de montrer qu'on est des gens réels et qu'on n'est pas parfaite et qu'on n'est pas toujours heureuse et qu'on n'est pas milliardaire non plus. Et voilà. Et j'ai écrit un premier livre l'année dernière. Là, je sors un deuxième livre. Et je suis un peu une survivante de la vie, je crois.
Ok. Ça annonce bien la suite.
Ouais.
Ton compte lifestyle, du coup, c'est ton compte perso, c'est ça?
Ouais, c'est mon compte perso.
Et SPM Ta Mère, c'est ton compte sur
SPM, SPM Ta Mère, c'est mon compte sur les règles.
Et tu tiens ça depuis quand?
Alors, SPM Ta Mère, je crois que je l'ai créé il y a peut-être 3 ans maintenant, ou peut-être un peu plus, je sais plus.
Parce que j'ai l'impression qu'on voyait pas trop de choses sur le sujet et que ton compte était un peu essentiel.
En tout cas, sur les syndromes prémenstruels, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que j'ai été la première à prendre ce sujet à bras-le-corps. Et c'est surtout que quand le féminisme est arrivé sur les réseaux sociaux, aussi libérateur que ça a pu être, alors sans parler de MeToo, etc., mais c'était un féminisme qui était très orienté autour du plaisir féminin, qui finalement est peut-être un féminisme plus acceptable pour les hommes, parce qu'ils ont quelque chose à y gagner, à savoir... Bah, Rudy, il y a mon chat qui éternue. À savoir que c'est un féminisme qui est peut-être moins effrayant que celui... Excusez-moi, il y a mon chien qui n'arrête pas d'éternuer, je ne sais pas ce qu'il a. qui est peut-être un féminisme un petit peu plus effrayant à aborder la thématique de la santé, des droits, des violences. Ça fait tout de suite plus peur que comment accéder au plaisir. Sans dire que c'est plus important ou moins important.
Oui, bien sûr.
Hein. Mais en tout cas, je pense que j'ai été la première à aborder en tout cas cette thématique-là. Ouais.
Et pourquoi tu as voulu l'aborder? C'est un sujet qui te touchait, toi, de ton expérience?
Moi, c'est un sujet qui me touchait personnellement. Ouais. Et moi, les syndromes prémenstruels, ça se traduisait surtout par des envies suicidaires, par des troubles de l'humeur très, très complexes à gérer.
Ouais.
Et une espèce de forme de dépression énorme. Et j'en avais assez en fait de voir aucun retour là-dessus, c'est-à-dire que quand j'en parlais sur mon compte perso, je voyais bien que je recevais des centaines de messages pour me dire mon Dieu, mais moi aussi avant mes règles je pleure devant des pubs Whiskas, etc. Je me suis dit c'est quand même dingue qu'on n'en parle pas du tout. Et tu vois, moi je suis atteinte d'un trouble qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel, donc il y a un trouble qui amène des envies suicidaires tous les mois avant les règles. Donc c'est pas facile à gérer, c'est surtout que en France, quand j'en ai parlé à des psys ou à des médecins, on me diagnostiquait borderline ou bipolaire, ce qui a absolument rien à voir.
Okay.
Et le premier diagnostic que j'ai eu, c'était au Canada, parce qu'au Canada, la place des femmes est bien plus importante qu'ici. Et pour te donner une idée, il y a même un hôpital où il y a un service qui est dédié au syndrome prémenstruel.
Ah ouais, putain.
Donc ils ont vraiment une avance sur nous qui est assez incroyable. Okay. Et en France, la plupart des personnes menstruées continuent de penser qu'elles sont folles.
Ouais.
Alors sans faire de psychophobie, hein, y a pas de souci à être folle, entre guillemets. Par contre, il y a un souci à ne pas parvenir à mettre un mot sur ce qu'on vit et ce qu'on ressent dans son corps. C'est quand même vraiment problématique qu'aujourd'hui, concernant les menstruations, que ce soit des maladies plus physiques comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques, les diagnostics soient si compliqués à mettre. Quoi. C'est un peu un parcours du combattant pour se faire poser un diagnostic. Donc du coup, c'était ça l'envie de créer SPM, ta mère. Ouais.
Et tu parlais de dysphorie, tu peux rappeler ce que ça veut dire ?
Alors, en tout cas, à ne pas confondre avec la dysphorie de genre, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, le syndrome, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est un syndrome prémenstruel x10 qui va plutôt se traduire par des symptômes psychiques. Donc à savoir une énorme fatigue émotionnelle, souvent ça se traduit par des envies suicidaires qui arrivent une semaine, voire deux semaines dans les pires cas avant les menstruations et puis qui disparaissent le jour où les règles arrivent. Donc en tout cas le point assez crucial de ce trouble là c'est les pensées suicidaires qui n'arrivent qu'avant les règles, et ça tous les mois.
Ouais. C'est dû aider quand même beaucoup de monde en faisant ce compte, je pense, faire du bien.
J'espère.
Ouais.
J'espère. Moi, c'est un compte surtout où je partage surtout des témoignages. Parce que de toute façon, aujourd'hui, les recherches sont tellement minces et tellement inexistantes qu'en fait, j'ai pas beaucoup de solutions à leur proposer, à part quelques remèdes naturels, quelques exercices physiques. Mais il n'y a pas de traitement pour les SPM. C'est un sujet qui n'intéresse pas trop le corps médical.
Bien sûr.
Corps médical qui est majoritairement représenté par des hommes. Ouais. Donc forcément, ces questions-là, on ne s'y intéresse pas trop. Il n'y a pas de financement pour ça. Ouais. Donc en tout cas, moi, c'était surtout l'idée de créer un espace safe où les gens peuvent laisser leurs témoignages, lire d'autres témoignages dans lesquels se retrouver. Et puis, quand tu regardes sous les témoignages que je publie, y a toute une communauté qui s'échange des tips, qui discute entre elles. Ah, mais moi aussi, je vis ça. C'est quoi ton truc ? Et ça, je me dis, finalement, bon, c'est un peu un format forum en plan 2022.
Oui, c'est ça. Trop bien. Trop cool. On est là aujourd'hui pour parler d'amour. Est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour aujourd'hui ?
Mon rapport à l'amour, il est douloureux. Mon rapport à l'amour, pour moi, aujourd'hui, l'amour est synonyme de douleur, de blessure, de violence et de pas grand-chose de positif.
Ça a toujours été comme ça ?
Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais à force d'expériences et de micro-traumatismes qui s'ajoutent sur chacun d'entre eux, et j'en arrive à un point où je me rends compte que l'amour m'a majoritairement apporté beaucoup d'événements tristes et finalement peu de d'événements joyeux, quoi.
Pourquoi beaucoup d'événements tristes ?
Parce que déjà dans l'amour, je mets pas que l'amour amoureux.
Romantique, amoureux.
Je mets aussi l'amour amical, l'amour familial.
Ouais.
Donc déjà moi j'ai grandi avec une mère très particulière, qui m'a beaucoup violentée psychologiquement, qui m'a malheureusement violentée aussi physiquement d'une certaine manière. Donc déjà j'ai grandi déjà avec un premier rapport à l'amour qui est ce que j'appelle un amour fou, c'est-à-dire que ma mère était une mère célibataire sans aucun homme dans les parages, qui n'avait pas beaucoup d'autres objectif que ceux de me garder en vie, on va dire.
Okay.
Donc, c'était un amour absolument dévastateur. Et donc, tout de suite, j'ai grandi avec ce rapport à l'amour qui apporte pas de belles choses. Donc déjà, quand tu grandis avec ça comme rapport à l'amour, c'est compliqué d'appréhender tes relations amoureuses. Et puis, malheureusement, la première personne que j'ai aimée très, 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 très fort est décédée. Et ça, j'avais 22 ans. Donc, pareil, quand tu...
Allez, redis.
Il y a encore mon chien qui éternue, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est quelque chose. Mais déjà, quand tu débutes ta première histoire d'amour qui se finit par un décès, qui plus est un suicide de sa part, alors qu'on était fiancés, que j'étais enceinte, c'est déjà difficile d'appréhender sa vie amoureuse avec ça. Donc je Donc en fait, voilà, j'ai l'impression que tous mes souvenirs à l'amour sont rattachés à de la violence et à des mauvais souvenirs.
Comment t'as fait pour te remettre de cette perte de ton premier amoureux ?
J'ai beaucoup bu.
C'était il y a 10 ans.
C'était il y a 10 ans, ouais. C'est la semaine dernière, ça faisait 10 ans qu'il était décédé. Okay. Et c'est tout un cap. J'ai pris le parti de tout de suite partir à l'étranger, vivre une nouvelle vie pour ne pas être que dans le rôle de la veuve. Parce que ce rôle de veuve à 22 ans, c'est tout un poids. Puis en plus, il y a quand même. Une notion dans la perte d'un amoureux. Quand t'es une femme, on attend de toi que tu ne refasses pas ta vie. Donc même si, alors pas mes amis, hein, pas mes amis très proches, mais la société attend de toi quand même que tu sois en deuil, que tu portes du noir pendant 10 ans. Et plus, tu n'es pas, quand tu es une femme et que tu perds ton compagnon, tu n'es pas censé refaire ta vie derrière. Parce que tu appartiens à cette personne-là, en fait. Tu es censé, en fait, ne jamais t'en remettre. Ouais. Parce que si tu t'en remets, ça veut dire que tu ne l'aimais pas vraiment, sauf que non, en fait. On a le droit de vivre derrière, on a le droit de refaire l'amour, on a le droit d'être heureuse, de rire, même si dans le deuil, et ça pour le coup, pas que le deuil amoureux, mais quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, peu importe le type d'amour, en effet, on se sent extrêmement coupable quand on est heureuse pour la première fois après. Ouais. Quand on rigole la première fois après, tu te sens comme la pire des personnes. Tu te dis, mais alors, je vaux rien, quoi, si je suis heureuse après lui, quoi. Donc, partir à l'étranger, refaire une vie ailleurs était indispensable, je pense. Et c'est ça qui m'a sauvée. Mais c'est vrai que du coup, par contre, ça joue énormément sur ma quête de l'amour, quoi.
Et tu disais que tu étais enceinte en plus, avant 2 ans, enceinte de cul.
J'étais enceinte à ce moment-là. Alors lui, il ne le savait pas.
Il ne le savait pas encore, tu lui avais pas encore.
Non, il ne le savait pas encore parce que c'était vraiment. J'avais dû l'apprendre quelques jours avant, quoi. Donc. Okay. Je savais même pas, moi, où j'en étais, quoi. À 22 ans, avoir un enfant, c'est compliqué. Et quand il est décédé, j'ai décidé d'avorter parce que moi-même, étant fille d'une mère sans père, je sais la douleur que ça peut être de grandir sans famille. Et puis, j'étais quand même très consciente que garder l'enfant de mon compagnon décédé à 22 ans, c'était quand même assumer un poids émotionnel d'une vie. Qui est pas gérable. Qu'est-ce que j'aurais fait ressentir à cet enfant s'il lui avait ressemblé, s'il avait eu les mêmes traits de caractère. C'est dingue de se dire que si j'avais gardé cet enfant-là, aujourd'hui j'ai 32 ans, bah aujourd'hui cet enfant il aurait 10 ans. Ouais. Donc aujourd'hui on serait pleinement dans les questions de c'est quoi ses passions, c'est quoi ses trucs. Et moi, 10 ans après, mon deuil il est absolument pas fait. Donc qu'est-ce que j'aurais fait vivre inconsciemment à cet enfant-là et la pression que je lui aurais mis sur ses épaules, c'était pas sain. Et ça, tu vois, sur le sujet de l'amour, ça pour moi, prendre la décision de ne pas avoir gardé mon enfant, c'est déjà une décision d'amour pour lui, en fait. C'est déjà une décision d'une mère qui aime son enfant. Et tu vois, il est pas là cet enfant, mais je l'aime très fort et je pense souvent à lui. Et je sais que il est quelque part... mais en tout cas, il fallait prendre cette décision-là, ouais.
Et ton avortement, ça s'est bien passé J'imagine que ça devait être très douloureux, quand même.
J'en ai très peu de souvenirs. Je l'ai fait seule, en plus, parce que je voulais pas... Je sais que, par exemple, ma meilleure amie, avec qui on est très proche, aurait été là pour moi si j'avais décidé de l'impliquer là-dedans. Ouais. Mais je crois que j'avais sincèrement besoin d'être dans ce processus-là seule.
Tu l'as dit à personne ?
Sur le moment, non.
Ok.
Sur le moment, non. Il me semble que je l'ai dit après à ma meilleure amie. Mais que je lui ai dit vraiment. Un détour de conversation très rapidement, avec une phrase, quoi. Mais j'avais besoin d'être seule dans ce processus. J'avais déjà perdu mon compagnon. Et puis, alors, quand tu perds quelqu'un, tout le monde s'en mêle. Tout le monde donne son avis. Comment il faut gérer les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assumer sa douleur. J'avais besoin d'être seule avec moi-même. Donc, je l'ai fait seule. Quand je dis que je l'ai fait seule, je ne l'ai pas fait avec un cintre. Mais en tout cas, ouais, j'avais besoin de vivre ça seule.
Est-ce que tu t'es sentie soutenue à ce moment-là, quand tu as perdu ton compagnon, par ton entourage ?
Non, pas trop. Sauf ma meilleure amie, bien sûr, qui est comme ma famille. Mais non, pas trop. Ma mère a été très violente dans cette période-là, en me reprochant d'être mal. Ma mère Elle me disait, mais c'est pas possible, il faut que tu te remettes au travail, tu vas rester combien de temps comme ça, la vie continue. Donc je pense qu'elle avait peur que moi aussi je me suicide, parce qu'en effet l'envie était très, très présente. Okay. Mais bon, même quand on a peur, on ne fait pas subir ça à son enfant qui vient de perdre son compagnon. Mmh. Et puis j'ai senti que très rapidement, la vie continuait. Donc en fait, les gens... Puis les gens étaient mal à l'aise d'en parler. Donc non, je ne me suis pas sentie particulièrement soutenue. Et puis... puis tout se passe très vite, c'est voilà, la personne décède, tu vois la personne au funérarium, il y a la cérémonie à l'église, et puis c'est fini quoi, ça se passe en l'espace de deux semaines, et après...
Oui, t'as même pas le temps de trop comprendre ce qui se passe,
j'imagine. T'as pas du tout le temps de comprendre ce qui se passe, et puis après bah, la vie reprend son cours, les gens autour de toi savent pas comment aborder la chose, donc non, je me suis pas sentie soutenue. Hein. Non.
Après ça, du coup, tu disais que t'étais partie à l'étranger,
ouais.
Est-ce que t'as pu faire des rencontres amoureuses rapidement ou c'est quelque chose que tu as mis de côté ?
Alors, étrangement, j'ai rencontré quelqu'un très très rapidement. J'arriverai pas à dire, moi dans mon souvenir, j'ai l'impression que c'était genre une semaine après être arrivée, mais je pense pas. Je pense que ça devait être peut-être un ou deux mois après mon arrivée à Montréal. Quelqu'un avec qui on n'a pas été en couple pendant 6 mois. Il faut savoir que le dating au Canada et en tout cas au Québec est très différent.
Pourquoi ?
Dans France, et bien, par exemple, eux, ils ont tout ce truc de fréquentation. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu t'entends bien avec la personne, tu partages des moments, tu partages une relation sans mettre le mot couple et sans s'interdire de voir d'autres gens. C'est-à-dire que c'est une relation amitié plus, sans exclusivité. Et puis, il y a un moment où, en tout cas, moi, mon compagnon, et puis tous les compagnons que j'ai eu là-bas ont fait ça. Il y a un moment où tu t'assois dans un parc et la personne te dit, voilà, j'aimerais qu'on parle. Où est-ce qu'on en est dans notre relation ? Est-ce que tu voudrais être ma petite amie ?
Ok, et ça se passe toujours comme ça, c'est marrant.
Okay. Ça se passe toujours comme ça. Et ce garçon-là, ouais, je pense qu'on s'est fréquenté 6 mois avant qu'il y ait ce moment où on s'assoit dans un parc et où ils me disent, je t'aime et j'aimerais qu'on soit en couple. Est-ce que tu veux être mon amoureuse ? Et j'avais trouvé ça très, très romantique.
Ouais, c'est hyper joli.
Très rassurant, parce qu'il y a quand même un moment où tu te poses et tu mets le mot couple, alors qu'en France, c'est très flou, hein, t'es en couple quand tu te vois 2 fois par semaine, quoi.
Ouais.
Et puis en fait, tu sais pas vraiment si t'es en couple. Donc j'avais trouvé ça assez chouette, et ce garçon-là m'a beaucoup, beaucoup soutenue pendant un long moment. On est restés ensemble un peu moins de 3 ans. Bon, ça s'est très mal fini. Voilà, on y revient. Amour, douleur, confiance inexistante. Mais en tout cas, au début, il m'a beaucoup soutenue et c'était important que je l'aie dans ma vie à ce moment-là parce que c'était pas facile de me supporter dans ces moments-là où j'avais des pensées suicidaires très fortes, où j'avais des crises de larmes, où je pouvais disparaître pour rester chez moi et plus donner de nouvelles. En plus, j'avais pris cette très mauvaise habitude de me couper les bras, de me couper les jambes. Donc j'avais des cicatrices partout, c'était quand même quelque chose de pas évident à assumer.
Ouais.
Et il avait été très doux et très compréhensif avec ça. Mais moi d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça me pose énormément de questions. Tu vois, ma vie amoureuse est très complexe. Je peux dire que je rencontre plus personne. Et je me rends compte qu'en fait, dans les périodes de vie où j'ai été les plus vulnérables, où j'ai été les plus fragiles, je rencontrais très facilement quelqu'un. Et aujourd'hui, où je suis très assise dans ma position, très, très en adéquation avec la vie que j'ai, où je suis bien dans mes baskets, où j'ai pas besoin qu'on me sauve, bizarrement, je ne rencontre plus personne.
Tu penses que ça attirait un peu les gars, à ce moment-là, de vouloir t'aider, te sauver, te faire du bien ?
Je pense que c'est plus simple pour eux, parce que tu vois, même mon compagnon qui est décédé, Rodolphe, il avait 40 ans. Moi, quand je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Il m'a rencontré dans une période de vie très, très, très compliquée. Il m'a sauvée. Il m'a sauvée. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai en tant que femme de 32 ans, ça ne retire pas l'amour fou que j'ai pour lui et tout ce que je peux ressentir pour lui. Mais néanmoins, que ça laisse à réfléchir qu'un homme de 40 ans soit tombé amoureux d'une fille de 20 ans qui était complètement perdue. Je pense que ça reste quand même que on est dans une société patriarcale et que les hommes ont besoin d'être rassurés par la faiblesse des femmes. Que pour eux, ça reste trop complexe d'assumer une personnalité trop affirmée et d'assumer une relation où ils ne sont pas le point d'ancrage de l'équilibre de la personne avec qui ils sont. Et en effet... Dans toutes les relations que j'ai, quasiment, ça a tous débuté à un moment où j'avais besoin d'eux. Alors que maintenant que je n'ai plus besoin d'eux, bizarrement, plus personne ne veut de moi.
Et t'en as parlé avec des mecs, ça? C'est intéressant.
J'ai eu tellement de dates, je sais pas. C'est vrai. J'en ai parlé avec des mecs.
Je me demande comment ils réagissent. Enfin, j'en ai pas parlé avec des gars. Il y avait un mec qui m'avait sorti ça, je pensais à lui. J'avais complètement oublié de ma mémoire. Et le mec m'avait dit, non mais moi j'aime les filles complètement torturées et complètement tristes parce que c'est beau de servir à quelque chose. Mais c'était hyper malsain comment il l'avait sorti. Et je l'avais engueulé de ouf. C'était vraiment plus malsain que là ce que je viens de te dire. Et c'est... Ouais, c'est... je pense que c'est vraiment une réalité. Et c'est bien que t'en parles.
Là, il n'y a pas longtemps, je fréquentais un gars avec qui on a eu un petit coup de cœur, avec qui c'était très naturel, très évident et tout. Et au bout de 3 rendez-vous, il me dit que voilà, il ne se sent pas prêt à être en couple, qu'il fait un travail sur lui avec un psy, blablabla, qu'il a des crises d'angoisse et je t'en passe.
Ouais.
Et il me dit, c'est quand même dingue, parce que d'habitude, j'ai aucune difficulté... à me mettre en couple, c'est très facile pour moi. Okay. Et de ce qu'il m'avait expliqué de ses relations, ça a été des relations où il a été trompé, ça a été des relations où il n'a pas forcément été bien traité. Mm-hmm. Alors, il ne disait pas que ces filles-là étaient des folles, hein, parce que moi, un mec qui me dit « mon ex était folle, tu peux dégager, même pas je veux entendre ce que tu me dis ». Il ne me disait pas du tout ça, hein, mais c'était quand même des relations où il avait été malmené. Et quand il m'a dit qu'il n'était pas prêt à être en relation avec moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de lui dire « mais en fait, la place de l'amour, elle est que pour, entre guillemets, les mauvaises filles, les filles qui ont travaillé sur elles, qui ont fait le deuil, entre guillemets, de leur trauma, elles, par contre, vous en servez comme une forme de punching bowl émotionnel à qui vous pouvez confier tout ce que vous ressentez. Ouais. Par contre, jamais vous ressentirez la passion amoureuse pour des filles comme moi. Et ça, c'est affreux parce que c'est vraiment un truc que j'expérimente là depuis très longtemps.
Et pourquoi la passion amoureuse ?
Ah bah clairement, je ne suscite aucune passion amoureuse chez personne.
Mais comment t'expliques ça ? Est-ce que maintenant tu sais ce que tu veux, t'es bien dans ta tête, dans ton corps, t'as réglé certains trucs, tu fais peur aux gars ?
Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça, j'avoue que c'est horrible ce que je veux dire, mais j'en suis à énormément me remettre en question, à me dire que bah en fait, bah après tout, pourquoi je mériterais de l'amour ? Je suis pas si intéressante, je suis pas si drôle, je suis pas si intelligente, et puis je suis pas si belle, et puis en plus je suis même pas mince. Donc sur cette base là, en effet, pourquoi quelqu'un m'aimerait, quoi? Et ça, c'est aussi les applications de rencontres, quoi. C'est que tu rencontres des tonnes de personnes que tu aurais pas rencontrées si t'étais pas là-dessus, et tu te dis, putain, je fais 30, 40 rencontres, et il y a pas une personne qui m'a aimé sur ces 30, 40 rencontres.
Justement, tu disais que tu rencontrais personne, mais tu fais des rencontres, tu fais même sur les applis. Ouais. C'est le voisin.
Je me suis réveillée, tu veux bien prendre le casque ? Non, trou du cul.
Du coup, toutes ces rencontres-là que tu fais, c'est des rencontres via des applis ou c'est de la vraie... Enfin, de la vie, quoi.
C'est que des rencontres via les applis.
Ouais.
Alors ça, tout le monde me dit, oui, mais c'est pas sur les applications que tu vas rencontrer l'amour. Bah, je te le fais pas dire et j'aimerais bien ne pas rencontrer... imagine, je rencontre le père de mes enfants sur une application, ça me fait chier, quoi.
De l'avoir rencontré sur une appli ?
Enfin, si je l'ai rencontré déjà, c'est bien.
Oui.
mais en effet, comme tout le monde, je rêverais d'une rencontre plus jolie à raconter.
D'un voisin, beau gosse, par exemple.
Non, ça ne sera pas toi. Okay. Toi, tu es sorti de mon radar.
Oui, un ami d'amis.
Voilà, ouais. Et puis aussi, ce qui va avec la vraie rencontre, c'est aussi toute l'émotion que ça procure. C'est quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas.
Spontané aussi.
Un truc un peu adolescent, qui est très agréable. Que sur les applications de dating, bon, bah, t'échanges une semaine des messages, on va boire un verre, on se pose, il est plutôt entendu qu'on se plaît physiquement. Finalement, c'est très rapidement un entretien d'embauche. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ah, ouais. C'est super passionnant. En fait, on n'a rien à foutre. la place à la spontanéité est quand même très mince.
Ouais.
Et oui, moi, par mon métier, bon, bah, voilà, je suis créatrice de contenu, slash influenceuse, slash je travaille dans mon salon tous les jours.
Ouais.
Donc, en plus, dans mon métier, je rencontre que des femmes. Quand je vois des événements de presse, c'est que des femmes. Ouais. Ou alors, s'il y a des hommes, c'est des hommes homosexuels.
Ou les copains de ces femmes.
Ou les copains, hein, ça m'arrive souvent. En effet, ouais. Je te présente un tel. Ah, bah, c'est mon mari. Ah, merde, je trouvais pas mal. Bon, bah, tant pis. c'est que ça. Donc, en fait, tu te retrouves à devoir subir les applications de rencontre parce que t'as pas d'autre moyen de rencontrer quelqu'un. Et c'est absolument affreux, les applications de rencontre. Moi, j'ai pas de mal à dire que les applications de rencontre, d'une certaine manière, m'ont un peu détruite, en tout cas m'ont un peu cassée, m'ont un peu brisée. Détruite, ça serait un peu grave comme mot. Ouais. Mais en tout cas, les applications de rencontre m'ont brisée d'une certaine manière. Mais pour autant, bah, je continue à les utiliser.
Et ça fait combien de temps là, que tu es dessus et que tu rencontres des gars via ces applis?
Et ben, en fait, tous les mecs que j'ai rencontrés avec qui je me suis mis en couple, sauf Rodolphe et le garçon que j'ai rencontré après à Montréal.
Ouais.
Donc ça va faire presque 9 ans. En tout cas, oui, ça, on va dire, ben voilà, ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans que je fais des applications de rencontres. Et tous les garçons avec qui j'ai débuté des relations, je les ai rencontrés par des applications de rencontres. J'en ai fait... Si, je crois qu'en 7 ans, j'ai fait une seule rencontre dans la vraie vie.
Okay.
Et ça s'est avéré être un mec absolument terrifiant, violent, manipulateur. Okay. Absolument horrible. Mais c'est la seule rencontre dans la vraie vie que j'ai fait en 7 ans. Donc moi, quand les gens ils me disent « Oui, mais il faut arrêter avec les applications de rencontres. » Ouais, d'accord, mais j'ai 32 ans,
ouais.
J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et en 7 ans, j'ai rencontré une personne dans la vraie vie. Donc comment je fais?
Et est-ce que tu as des potes qui pensent à des amis et qui essayent de te mettre sur des plans ou quoi?
Mais alors, ça, tu sais, ça me fait rire, ça me fait rire parce que ça me fait penser à ce truc de... Dans les films, on a l'imaginaire de tes potes qui t'organisent un faux rendez-vous surprise avec un gars, tes potes qui t'invitent à dîner et oh, comme par hasard, il y a le célibataire de la bande. Oh, bah non, pourquoi tu m'as fait ça? Ça n'arrive pas dans la vie. Dans la vie, ça n'arrive pas. Et alors, c'est devenu assez pathétique. Et je pense que je trimballe en moi quelque chose d'assez pathétique maintenant, aux yeux des gens qui me rencontrent. C'est que je demande très rapidement, mais t'as pas quelqu'un à me présenter? Tu veux pas organiser un dîner? Tu me présentes quelqu'un? Et tout le monde me regarde
mais
avec un air
débile. Mais c'est pas pathétique.
Ah si. Je peux t'assurer, je suis un peu... Là, je me trouve pathétique.
Ouais, tu te trouves pathétique, c'est pas tes amis qui vont dire arrête, t'es pathétique. Enfin, je pense que t'as raison d'aller chercher surtout.
Il y a déjà des amis qui m'ont dit des choses qui étaient pas loin de t'es pathétique.
Ah ouais, dur.
Ouais. Il y a déjà des gens qui m'ont dit.
C'est violent quand même.
Pas loin, qui employaient pas le mot pathétique, mais en tout cas c'est ce que ça voulait dire.
Okay.
Et du coup, ouais, c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à demander ouais, t'as pas quelqu'un à me présenter, on se fait un dîner, t'invites quelqu'un. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça n'arrive que dans les films. Et à chaque fois que je demande ça à quelqu'un, les gens. Alors en plus, on a tous entre 30 et 40 ans.
Mmh.
Tout le monde me regarde avec beaucoup de compatissance en mode genre, bah franchement, je vois pas. Hein. Tu sais, les seuls célibataires qui restent autour de moi, je te les présenterai pas. Hein, c'est pas le haut du panier.
Quoi. Coup,
ouais. Et donc, t'as cette notion-là aussi de putain, je suis la dernière. Ça y est, je suis la dernière. Et c'est pas faute d'avoir essayé, quoi.
Est-ce que tu penses que tu es toujours à la recherche d'une rencontre avec un mec, en l'occurrence, pour une histoire, ou pas spécialement, tu vas sur ces applis un peu comme ça?
Alors non, je suis complètement à la recherche d'une rencontre et je pense que je suis trop dans l'attente d'une rencontre.
Mmh. Depuis longtemps ou là, c'est récent? Comme tu disais, tu étais la dernière.
Alors moi, là, ça va faire 2 ans et demi que je suis célibataire, donc c'est pas énorme. Mmh. Mais il faut savoir qu'entre-temps, bah, y a eu le Covid, il y a eu le confinement.
De ouf.
Moi, le confinement m'a déglingué la tête. Hein, ouais. Vraiment, ça a créé chez moi un sentiment de solitude extrême qui n'est jamais parti.
Okay.
Et en dehors du confinement, on a quand même passé aussi des mois sans vie sociale. Mmh. Donc, même si, voilà, on va dire, bon, ça fait 2 ans et demi, mais en vrai, ça fait 1 an en termes de vraie vie que je suis célibataire.
J'aime bien en termes de vraie vie. Bah, on devrait l'employer plus souvent parce que ça marche pour plein de trucs. Quoi.
C'est la période Covid, elle compte comme une fausse vie. Hein.
Ah,
tous les bars étaient fermés, y avait rien, on pouvait rien faire. Il fallait rentrer à 16h ou 17h chez nous, je sais plus.
On devrait changer notre date d'anniversaire. T'sais. Moins
vraiment.
Un Covid, moins
mais
un an
vraiment.
Covid.
mais tellement. Moi, je devrais enlever 2 Covid. Là. Enfin, je devrais même pas avoir 32 ans, je devrais avoir 30 ans. Quoi. Et je sais plus ce que je disais, mais. Je sais plus ce que je disais.
Pardon, je suis nulle en type de mémoire. Si, la recherche de la rencontre, quand même.
Attends, je m'allume une clope. Vas-y. La clope, c'est mon amoureux. non, j'ai pas. Bon, je pense que c'est la chose que j'espère le plus profond de mon cœur, c'est de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de bien avec qui on va avoir une belle relation honnête, sincère. Je cherche pas l'amour passionnel, je veux pas courir tout nu dans la rue en disant on s'aime tellement comme dans les films.
Ouais.
Non, je veux rencontrer quelqu'un de doux, de gentil, de drôle et d'attentionné et surtout quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et tu vois, beaucoup de gens me disent mais est-ce que t'es pas un peu trop compliqué?
Trop exigeante, trop compliquée.
Est-ce que t'es pas trop exigeante? Ben non, je recherche quelqu'un de gentil.
Ouais.
Et en effet, c'est rare. Par contre, en effet, la réalité, c'est aussi que quand je vois, désolée pour mes copines qui m'écoutent, mais elles le savent de toute façon, quand je vois les garçons avec qui elles sont en couple, je préfère être célibataire toute ma vie.
Ouais.
Et donc peut-être que moi, je suis trop exigeante, mais peut-être que certaines personnes ne le sont pas assez. Et moi, être avec un homme avec qui je ne partage rien, être avec un homme qui ne se lève même pas pour saluer mes copines quand elles arrivent à l'appartement, être avec un homme avec qui tu dois te battre pour qu'il fasse ne serait-ce que la vaisselle, qui passe ses journées à fumer de la beuh et à jouer aux jeux vidéo, ces hommes-là n'ont pas de place dans ma vie. Et donc oui, peut-être que je suis exigeante, mais est-ce que l'exigence est si mal que ça? On parle de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille, pour... enfin, en tout cas moi c'est mon rêve de fonder une famille, donc trop exigeante, je pense qu'en fait, pourquoi les hommes sont aussi médiocres aujourd'hui dans les relations amoureuses et dans les relations humaines, c'est parce que nous aussi, on accepte beaucoup de choses. Et quand je dis nous, c'est moi aussi, j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. Les hommes ont toujours du succès et ont toujours pas de difficulté à se mettre en couple alors qu'ils se comportent mal. Et on dit souvent que ouais, les femmes ont le pouvoir sur la sexualité, mais par contre les hommes ont le pouvoir sur le couple. C'est un homme qui décide s'il est en couple avec toi. C'est jamais une femme qui décide. Et ça, c'est pas que moi, c'est aussi dans les relations que mes copines me racontent, etc. C'est les mecs qui donnent le feu vert. Ok, toi tu as assez d'intérêt pour moi et je serai en couple avec toi.
Okay, t'es validée,
ouais. Voilà, mais par contre, c'est jamais dans le sens inverse. Une femme, si elle exprime trop qu'elle a des sentiments pour quelqu'un, etc., c'est une folle. C'est une folle.
Oui, qui va trop vite.
Voilà. Une femme qui contacte un homme sur les réseaux sociaux pour dire « Bah écoute, je te trouve charmant, est-ce que je peux t'inviter à prendre un verre ?» C'est une folle, voire une salope. Par contre, un homme qui le fait, c'est tout à fait normal. Alors que par exemple, tu vois, on y revient au Québec. Au Québec,
C'est inversé carrément
c'est
là-bas.
C'est complètement inversé. Ouais. C'est les femmes qui draguent. Quand t'es dans un bar, il peut y avoir un jeu de regard. Par contre, l'homme ne viendra jamais. C'est la femme qui va pour dire le feu vert. « Salut, ça va ?» Voilà.
C'est ouf.
C'est la femme. C'est, moi, au Québec, je me suis jamais sentie aussi forte dans ma vie sexuelle et amoureuse. Tu vois, par exemple, au Québec, pareil, j'ai eu des périodes où j'avais pas envie d'être en couple, où j'avais juste envie de coucher avec quelqu'un. Je me sentais respectée, même avec cet homme avec qui j'avais que du sexe. J'ai eu... Puis même le sexe est beaucoup plus fun. Je me rappelle d'une rencontre avec un gars. Bon, clairement, dans cette période-là, j'avais pas envie d'être en couple. On va au parc, on se fait une espèce de petit pique-nique. La nuit tombe, on a envie de faire l'amour et on s'est retrouvés à faire l'amour dans le parc contre un arbre. C'était une expérience sexuelle absolument géniale, d'un partage très sincère. Il ne m'a pas ghosté le lendemain. On s'est réécrit, tu as passé une bonne soirée, merci beaucoup. On s'est même revus pour coucher ensemble, mais c'était très sincère et très respectueux. En France, tu ne peux même pas avoir une relation sexuelle respectueuse.
Mais pourquoi on est si loin? Enfin, pourquoi eux sont si... Non, ce n'est pas eux qui sont si loin, c'est nous, à la ramasse.
Parce que j'aime pas dire c'est la faute des femmes. C'est pas la faute des femmes. C'est pas la faute des femmes. Par contre, définitivement, on accepte trop de choses. Moi, quand j'ai des hommes autour de moi qui me racontent leur récit par rapport à comment ils se comportent avec les nanas, j'ai pas de mal à dire genre, mais tu te comportes comme un porc. Tu te comportes comme un porc. Alors que le nombre de fois où je me retrouve dans des situations d'apéro où il y a des hommes et des femmes et que les hommes sortent des trucs complètement ahurissants et que personne ne dit rien et pire, que les gens rigolent. En fait, c'est qu'en France, de toute façon, on accorde trop de choses aux hommes. On leur accorde trop de choses. Ce qui passe ici ne passerait jamais au Québec. Jamais. C'est impossible. C'est, là, tu vois, par exemple, bon, peut-être que ma copine écoutera ce podcast, mais c'est pas grave. Je suis dans une situation où je discute avec une copine, elle me dit qu'elle a un date demain. Et je lui dis, ah, trop bien, montre-moi la photo du gars et tout. Il s'avère qu'elle m'envoie la photo d'un gars qui m'a blessée.
Ah putain.
Un gars que j'ai rencontré.
Pour tu savais pas du tout que c'était lui dont t'as parlé du
coup ? Non.
Ah, c'est ouf.
C'est quand j'ai vu la photo et donc je lui ai expliqué. Je lui ai dit putain, mais ce mec est un gros player. Ce mec, je l'ai vu, il m'a plu, il m'a blessé, il s'est mal comporté avec moi. Et en plus, il a essayé de me faire de la manipulation à l'inverse pour que je me sente coupable et que je me sente comme une folle. Il m'a vraiment fait comprendre. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Donc j'explique ça à mon amie qui est féministe, qui est militante.
Oui, c'est bien de la prévenir. Voilà. Tu vas pas rien dire.
Et je lui dis, franchement, ça me blesserait que tu le rencontres. Parce que ce garçon ne s'est pas bien comporté avec moi et c'est pas un homme qui se comporte bien avec les femmes. Mon ami m'a dit ok, j'entends, mais j'ai besoin de faire voir ça de mes yeux et je vais le rencontrer malgré tout. Et je lui ai expliqué un peu plus tard en lui expliquant à quel point ça me peinait, que c'était vraiment quand même terrifiant de se dire qu'un homme pouvait mal se comporter avec une femme, me laisser une blessure qui se rajoute à toutes les autres blessures que les hommes m'ont laissées, et s'en tirer sans absolument rien, et en plus de ça, même dater mes copines.
Ouais, j'avoue.
Et mon ami m'a dit, non mais il faut comprendre, c'est la sororité, c'est aussi la liberté de laisser les autres femmes agir comme elles le souhaitent. D'accord, ok, la sororité, c'est aussi ça. Sauf que la réalité, c'est qu'un homme peut mal se comporter et qu'il aura toujours la possibilité de rencontrer d'autres meufs et continuer à mal se comporter parce que jamais son comportement sera pointé du doigt. Mmh. Et finalement, même entre femmes, on laisse passer ces comportements-là. Mmh. Et c'est très douloureux. C'était, là, tu vois, vraiment, cette histoire, je t'en parle là parce que c'est très récent, et ça me rend malade. Ça me rend malade de me dire, ce mec peut me faire subir ça, peut me manipuler dans un sens où je me sens folle, et dater mes copines sans en être inquiétée.
T'en as parlé avec elle après son date ?
Son date, il est ce soir.
Ah, merde.
Son date, il est ce soir, et elle m'a dit que non, qu'elle le rencontrerait.
C'est chaud.
Ouais.
C'est chaud, parce que quand c'est une amie, enfin, il y a quand même ce truc, tu fais confiance à ta pote, quoi. Et par respect de ce qu'il a fait.
C'est plus supportable, en fait. C'est plus supportable qu'il nous piétine comme ça, sans qu'on puisse rien y faire, et qu'en plus, ils continuent à vivre leur vie comme si rien n'était. C'est plus possible. C'est plus possible.
Tu parlais tout à l'heure de la médiocrité de certains hommes, justement, avec tes copines. Est-ce que c'est un truc dont tu peux parler avec elles, ou c'est pas un sujet que t'abordes parce que t'as peur de les blesser, et tu vois, que ça parte en embrouille, etc.
Alors non, quand c'est des copines qui sont en couple, je leur dis très franchement. Mmh. Je leur dis très franchement, mais qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là ? Pourquoi ? Ce qui revient beaucoup, c'est la peur de devoir recommencer une vie seule. Ouais. Retrouver un appartement, déménager. La peur de se confronter au célibat. Entre 30 et 40 ans, quand ça fait tant de temps que t'es avec un homme, c'est très compliqué de se dire, je vais redevenir célibataire. Puis en plus, elles entendent toutes mes histoires de filles célibataires, de tout ce que je suis. Donc elles se disent, attends, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça, moi ? Non. Donc je leur jette pas la pierre, je peux comprendre que ce soit terrifiant. Ouais. Mais tu vois, par exemple, j'avais une copine chez qui je vais dîner pour la première fois, alors que ça fait peut-être 6-7 ans qu'on se connaît. C'était la première fois que je dînais chez elle parce que son mec était pas là. Je me suis dit, c'est quand même terrifiant de pas pouvoir inviter une copine à dîner.
Chelou, mais tu le connaissais pas du coup, son mec ?
Ah, son mec, je l'ai jamais vu. Okay. Son mec, je l'ai jamais vu. Et pire, quand elle m'en parle, elle me dit, ah non, mais faudrait vraiment pas que vous rencontreriez. Enfin, faudrait vraiment pas que vous rencontreriez.
Ça va mal passer.
Parce qu'il y aurait des propos qui te choqueraient trop. À quel moment t'as envie d'être avec un mec que tu peux même pas présenter à tes copines parce que tu sais qu'il va dire des trucs choquants ? À quel moment ? Enfin, moi, franchement, herc. tu vois, cette fille-là m'a confié aussi qu'elle avait plus du tout envie de lui et qu'elle se forçait à avoir des rapports sexuels avec lui. Pour. Voilà, parce qu'il faut. Herc. À quel moment ? Je préfère être célibataire, je préfère vivre dans 15 mètres carrés seule, ne plus avoir d'argent, plutôt que de devoir me forcer à coucher avec quelqu'un parce qu'on est en couple. Ouais, mais je préfère même mourir, je te le dis très franchement, je préfère mourir que de subir ça.
Ouais, ouais.
Donc c'est là en fait où, en tout cas moi j'ai très très peu de personnes, je pense que j'ai deux couples qui me font envie, c'est un couple de copines qui sont lesbiennes, où pour le coup elles ont une vraie relation hyper touchante, où elles sont hyper mignonnes, où elles sont sincères, où elles ont des attentions l'une pour l'autre, où elles s'écoutent, où elles partagent des choses. Quand tu vois leur story, elles sont tout le temps dehors, en train de boire un verre, en train de travailler, en train de lire. Elles partagent quelque chose. Mmh. Elles sont pas juste en train de partager un loyer. Mmh. Et il y a un autre couple d'une fille, ça fait 15 ans qu'elle est avec son mec, ils sont mariés, ils ont deux enfants, ils puent l'amour, ils sont beaux comme tout. Son mec est magnifique, elle est magnifique, ils ont un bel appartement. Ils sont adorables, ils font rêver. Ouais. Et c'est une vraie histoire d'amour qui fait sens. Donc sur tous les gens que j'ai en couple autour de moi, il y a que deux couples qui me font rêver. Tous les autres, je les trouve horribles. Et donc oui, je leur en parle. Mais même elles le savent.
Ouais.
Quand tu leur dis, mais tu te rends compte que c'est pas normal ce que tu me décris. Elles te disent, oui, je sais, mais j'ai trop peur de l'après.
Toi, t'as pas eu un moment comme ça où t'as rencontré quelqu'un et tu t'es dit, ouais, peut-être emménager. Tu savais finalement que c'était pas genre le mec de ta life, mais tu t'es dit, bon, voilà, j'ai 30 ans, tu vois, genre, je vais rencontrer.
Si, j'ai eu ça avec le dernier. J'habitais à Troyes et je l'avais rencontré sur Tinder.
À Troyes, la ville, parce que j'étais ouais. En coloc. Okay. Non, c'est dans cet appart.
Okay. À Troyes, la ville de l'Est de Faux-de-la-France.
Bah, bon, une très belle ville.
Et je l'avais rencontré sur Tinder. Physiquement, il avait tout ce qu'il faut pour me plaire. Il était grand, il avait les cheveux longs, il était très tatoué, très brun, très beau comme garçon. Il était... pour le coup très doux, quand même très attentionné. Par contre, on matchait pas. C'est-à-dire que moi, je voulais absolument quitter Troyes. Lui, il se voyait pas quitter son village. Pas que Troyes soit un village, hein, mais il habitait dans un village à côté.
Ouais.
il travaillait à la CAF en détestant son boulot. Il avait absolument pas l'ambition d'aller vers autre chose. Donc, on n'était pas du tout sur le même... sur le même pattern. On était, ouais. Mais je m'étais persuadée en me disant c'est un gentil garçon, il a des attentions pour moi, c'est un garçon bien, donc peut-être qu'il faut que, voilà, que j'accepte cette part-là. C'est pas grave s'il n'est pas aussi ambitieux que moi. Après, ça allait forcément poser un problème au niveau du lieu où on allait vivre. Moi, par exemple, je voulais absolument quitter Troyes. Bon, bah, il m'avait convaincue qu'il fallait chercher une maison ensemble, que j'allais être plus heureuse, qu'il fallait que j'arrête de me fuir en déménageant et en changeant de ville, que j'allais être plus heureuse avec mon petit jardin et ma maison. Et je m'étais dit pourquoi pas.
Ouais.
Et le corona est arrivé. Et il s'est avéré être une grosse merde, lui aussi.
Ah merde.
Ouais.
Et vous étiez ensemble pendant le confinement ?
Alors non, c'est absolument affreux ce qui s'est passé. J'ai eu le corona quelques jours avant le premier confinement.
Ok.
J'avais pas fait de course du tout ni rien. Les pompiers sont venus chez moi, etc., faire les tests. Ok, vous avez le corona, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, confinement, etc.
Et puis c'était la panique quand même à ce moment-là. Bah, enfin, t'avais le Covid, t'étais un peu genre, oula, c'est
bah,
chaud.
Là, tout le monde pensait qu'on allait en mourir.
Ouais, donc, c'est ça.
Il n'y avait aucun retour là-dessus. Enfin, c'était très compliqué de se projeter. Il n'y avait même pas eu encore le premier confinement. Donc, c'était de l'inconnu total. Et je dis à mon gars de l'époque, je lui dis, écoute, là, on me dit qu'il faut plus que je sorte de chez moi, donc tu ne peux pas venir. Par contre, j'aurais besoin que tu me laisses des courses devant ma porte parce que je n'ai plus rien à manger, je n'ai plus qu'un paquet de pâtes. Et il me dit, ok, je te laisse je te laisse des courses demain. Il ne le fait pas. Le lendemain, je lui dis, mais là, vraiment, il me fait livrer un quick. Je lui dis, là, vraiment, j'ai plus rien, Crédal. Il faut vraiment que je mange. Je suis très faible. En plus, j'ai une forme du corona assez sévère. Bah, le deuxième jour, il ne m'a pas apporté. Le troisième jour, il ne m'a pas apporté. J'ai fini par faire un appel en story pour demander si quelqu'un pouvait me livrer de la nourriture. Quelqu'un de ma communauté m'a livré de la nourriture. Ouais. Et lui, bah, il ne m'a jamais apporté à manger. Donc, je lui ai dit, écoute, là, je t'en veux trop. Là, il faut qu'on mette un petit recul parce que là, je suis vraiment très en colère contre toi. Et puis au bout de 2-3 semaines, une fois que le corona est passé, je lui ai dit, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, voilà, j'ai besoin que tu m'expliques ce qui s'est passé. Donc il m'a dit qu'il avait eu peur du corona, etc. Je me suis dit, bon, situation exceptionnelle,
oui.
Why not? Et je lui ai dit, bon, là j'ai plus le corona. Là je te dis franchement, le confinement, parce que là du coup ça y est, on était en confinement officiel. Je lui ai dit, le confinement est en train de me rendre barjo. On est en couple. J'ai besoin que tu viennes finir le confinement avec moi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et je ne vais pas le supporter. Et la seule chose qui m'a répondu, c'est je ne t'aime pas assez pour ça.
Waouh.
Alors que 3 semaines avant, on était en train de chercher une maison pour s'installer ensemble.
Waouh.
Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui.
C'est le mec de 3, ça ?
Ouais.
Ah, chaud.
Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui.
Qu'est-ce que tu as répondu ? Comment tu as réagi quand tu as reçu ça ?
C'était par téléphone. J'ai répondu, sale enculé, et j'ai raccroché.
Et plus de nouvelles.
Je n'ai plus jamais eu de nouvelles.
Ah, c'est chaud. Et vous êtes restés quand même un moment
ça
ensemble.
Ça faisait un an qu'on était ensemble.
Waouh.
Ouais. Ni SMS, ni message.
Et t'as pas eu envie à un moment de lui envoyer un truc même énervé, quoi ?
Non.
Ok.
Non, j'ai pas eu envie. Non,
ouais, violent quand même.
Non, parce que là, vraiment, en plus, c'était hyper violent. Parce que là, pour le coup, tout le monde autour de nous était en mode genre, mais il est tellement gentil, tellement adorable, tellement attentionné.
Ouais, tu parles.
Donc là, il y avait quand même un contre-coup de le nice guy
qui
en fait, lui aussi, se comporte comme une merde.
Racho.
Ouais.
Violent, ok.
Ouais, tu sais, s'il avait été une pourriture dès le début. Ouais. Mais là, il était bien. Ouais. Pendant toute la relation, il était bien.
Ok.
Et en fait, non. Même en étant bien, tu peux te comporter comme un fond de chiotte, quoi.
Les mecs que tu as rencontrés sur les applis, ça se passe, tu dis que ça se passe pas très bien avec. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, quoi ?
Alors, j'ai rencontré une multitude de profils différents sur les applis. Par exemple, je me mets pas un... Tu vois, je cherche pas le mec magnifique absolu. Ouais. J'ai pas des critères arrêtés. Donc, j'ai daté des petits, des grands, des gros, des diplômés, des pas diplômés, des mecs qui gagnent bien leur vie, d'autres qui gagnent pas bien leur vie. J'ai vraiment.
Ouais.
J'ai ratissé large.
Ouais, ouais.
Puis des moches aussi. Je me suis dit aussi peut-être que, en fait, entre guillemets, moches, hein, on est tous moches de quelqu'un. Mais je me suis dit, entre guillemets, bah, peut-être que les beaux. C'est pas les gentils, il faut peut-être aller vers un garçon qui est un peu moins beau. Je tombe que sur des gens qui n'ont pas envie de s'impliquer dans une relation, que sur des gens qui n'ont envie que de coucher. Là, vraiment, en l'espace de 2 ans, j'ai vraiment daté beaucoup de monde, parce que ça comble un peu le vide, il faut le dire. Et puis parce que je me dis, mais si je le cherche pas, je vais jamais le trouver, la bonne personne. Sauf que vraiment, bon, je sais pas combien de rencontres j'ai fait, hein. Je pense qu'il y en a plein dont je me rappelle même pas tellement qu'ils étaient insignifiants. Mais il n'y en a pas un seul sur ces mecs-là que j'ai rencontrés qui avait envie de vivre quelque chose.
Et il n'y a pas un truc, t'as pas une option, tu sais, qui te permet de dire j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie juste de coucher.
Alors, sur Bumble, oui, tu peux mettre relations sérieuses. Donc moi, j'ai mis relations sérieuses. Mais tu tombes que sur des profils qui mettent on verra ou rien de très sérieux.
D'accord.
Mais tu tombes jamais sur des profils de gens qui disent je recherche une relation sérieuse.
Ok.
Jamais. Donc je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'aille sur des sites plus type Mythique, des choses comme ça? J'ai regardé, mais là, les profils, on va pas se mentir, socioculturellement, les profils sont très éloignés de ma vie. Je peux pas être avec un Jean-Michemiche, 40 ans. Oui. C'est pas... Voilà. Il faut quand même être cohérent avec ce qu'on aime. Et avec, voilà, c'est pas du tout la même... Enfin, je suis pas la cible des sites comme Mythique. Mmh. Et en plus, de ce que je comprends, Mythique, les hommes ne sont pas beaucoup plus sérieux là-dessus non plus. Okay. Donc... c'est difficile à dire, quoi.
Est-ce que tu as un moment où tu as eu envie de tout lâcher dans la recherche des rencontres?
Alors, il y a eu un moment, en tout cas, où j'ai eu envie de lâcher les applications de rencontres.
Ouais.
Et j'ai essayé en me disant, bon, attends, là, je rencontre plein de gens, je discute avec, je vérifie qui correspond à ce que j'attends. Et pourtant, ça donne rien.
Ouais.
Donc, je me suis dit, peut-être que les gens ont raison. Il faut que j'abandonne les applications de rencontres et que... Je me concentre sur la vraie vie. Je crois que j'ai arrêté pendant un peu moins de 6 mois. Je n'ai pas fait une seule rencontre.
Est-ce que ça, c'est ce qu'on te dit, d'arrêter les applis?
Ah oui.
Ouais.
Oui, oui, on me dit l'amour, ça ne se cherche pas. La fameuse phrase de ça arrivera quand tu t'y attendras pas. Bah là, je m'y attends pas. Hein. Là, franchement, je ne m'y attends vraiment pas du tout. Donc, ça devrait arriver depuis déjà un bout de temps. Voilà, c'est quand on cherche pas. Ben ouais, mais c'est quand on cherche pas. Moi, je rencontre pas d'hommes dans la vraie vie.
Ouais.
Donc je cherche pas, ok, je veux bien ne pas chercher, mais du coup il se passe rien, parce que visiblement l'homme de ma vie ne me cherche pas non plus, donc j'espère qu'il est quelque part sur la terre en train de me chercher et qu'il comprend pas où je suis non plus, mais je veux pas croire qu'il y ait personne qui m'est destiné, c'est pas possible. Putain. Donc ouais, il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter, et puis alors il y a eu, attention, petite anecdote rigolote, pour dire vraiment à quel point je suis prête, ouverte à tout, à l'amour, cette année, dans les Portraits de l'amour et dans le pré,
ouais.
Ah, tu souris, t'aimes déjà cette année?
Ah, j'adore. C'est dur de savoir de qui tu parles, en fait. Mais j'ai pas trop regardé cette année. Putain, c'était quand d'ailleurs?
Les Portraits, ils sont passés là, il y a. Attends, ça devait être il y a 2 mois ou 3 mois.
Ok, donc l'émission n'a pas commencé vraiment.
Non,
c'était juste les
Portraits. L'émission commence en septembre. J'ai vu un profil à la télé. J'ai juste vu la pub. Ouais. Même pas, je l'ai vu parler. Et j'ai eu un coup de cœur.
Ah ouais?
Mais un foudroiement. J'ai vu ce mec. Trop je me suis ouf. Dit. Waouh, c'est quelque chose. Okay. Je suis allée regarder le profil sur l'ordinateur. C'est un mec qui vit en Corse, pour ceux qui regardent, qui s'appelle Sébastien, qui élève des cochons, qui fait de la charcuterie corse. Et je me suis dit, putain.
Ça me dit un truc, ça.
Ah, je me suis dit, waouh, ce mec-là, c'était pas que physique, c'était, c'était la force tranquille qu'il incarnait. Je me suis dit, putain, ça me fait quelque chose. Et moi, c'est mon rêve de partir de Paris.
Et si tu vas en Corse, en plus, t'es gâtée.
Voilà, c'est vraiment un petit village avec que des vues, mais moi, c'est mon rêve.
Bien.
Moi, c'est mon rêve d'avoir cette villa, Paris, tout ça, j'adore, mais. Mais mon rêve, c'est de vivre dans un village paumé, dans les montagnes. C'est mon rêve absolu, quoi. Et là, je me dis, putain, c'est fou ce que je ressens, quoi. Et il s'avère que ce garçon-là, je l'ai cherché sur les réseaux sociaux avant d'écrire, parce que je voulais pas passer à la télé.
Comment t'as fait pour mener l'enquête?
Oh, bah, la reine du stalk, hein, c'est facile, hein. De toute façon, des éleveurs corses qui ont 30 ans et qui font des charcuteries, il n'y en a pas tant, donc ça n'a pas été si difficile de trouver. Entre guillemets, ma chance, c'est que je pense que j'ai été dans les premières à le contacter parce que le portrait n'était pas encore passé à la télé. Donc on a échangé.
Ah ouais?
On a échangé. Louis, si tu passes par là, je suis désolée de dire ça dans un podcast, mais je pense que de toute façon tu n'écouteras pas. Donc on a longuement échangé. Moi, je lui ai exprimé que j'avais peur de participer à l'Amour et dans le Pré, que de toute façon je ne pourrais pas participer à l'Amour et dans le Pré parce que je suis médiatisée et que je suis une personne publique. Et il m'a dit, attends, t'es sûre de ça? Moi, j'ai vraiment envie que t'envoies ta lettre. J'ai vraiment envie de te rencontrer, donc s'il te plaît, je vais en parler à la production. Et donc je me suis retrouvée à être contactée par la production 10 minutes après ça, qui me disent, voilà, ça nous a expliqué que vous parliez, que voilà, si ta démarche est sincère, etc., envoie ta lettre.
Okay.
J'envoie une lettre.
Tu vas quand même, tu le fais et tout.
Je me dis, c'est le coup de cœur est trop fort pour j'envoie ma lettre. Et la production me rappelle le jour même où ils reçoivent ma lettre.
Ouais.
Pour m'expliquer, donc ils vont me rappeler pour un gros entretien, parce qu'ils vérifient vraiment les gens dont ils vont transmettre le courrier, ils ne transmettent pas tout le courrier. Et on parle une première fois une heure avec cette fille-là, on se rappelle, on parle deux heures de ma vie, de sa vie, je pose des questions sur lui, comment je m'envisage dans sa vie, enfin...
Via cette meuf de la prod, quoi. Ah ouais, putain, je savais pas qu'il y avait toutes ces étapes.
C'est un gros truc, ouais. Vraiment, ils cherchent vraiment à ce que ça matche.
Ok.
Et puis eux, ils écrivent quand même une histoire, donc je pense qu'ils ont quand même besoin, ça reste quand même de la télé-réalité, donc ils ont besoin de fermer les profils. Et cette anecdote est si longue, je suis désolée.
Non, pas de problème, j'adore. Moi, je veux la suite.
Et donc, ils te mettent quand même dans une espèce de bulle où t'es vraiment à fond dans l'expérience, dès le début. À partir du moment où t'as envoyé ta lettre, où t'es en contact avec la prod, t'es dans l'expérience, t'es dans le truc. La fille, en plus, me dit, bon, les dates du speed dating, c'est telle date.
Okay.
La semaine à la ferme, c'est telle date. Et je lui dis...
En mode réserve...
Voilà, je lui dis, non, ne me dis pas les dates de la ferme, je veux pas être déçue. Toi, elle me dit, Leslie, arrête, on sait, tu lui plais, il te plaît. Réserve les dates de la ferme, s'il te plaît, parce qu'après, sinon, ça va être catastrophique.
Ouais.
Donc, ils te mettent dans une bulle où t'y crois. Et en plus, j'ai tellement envie de croire à une rencontre folle comme ça que je suis dedans, quoi. Le temps passe et puis en plus je vois que plusieurs meufs de la prod de l'amour et dans le pré commencent à me suivre sur Instagram, donc je capte en fait que je suis dans leur favorite, entre guillemets, je capte qu'en tout cas je suis dans leur scénario qu'ils prévoient. Et il se passe un mois entre le moment où il reçoit le courrier où il choisit les meufs qu'il va voir en speed dating. On continue à s'écrire un peu, mais pas énormément. On garde quand même une certaine distance, parce que pareil, l'équipe de l'amour est dans le pré, ils t'expliquent bien, ils disent voilà, c'est dommage si vous parlez trop.
Faut garder le côté spontané.
Voilà, faut garder le côté spontané. Elle te dit bien, ne vous rencontrez pas avant l'émission. Elle me dit, tu te rends compte, si vous avez une belle histoire d'amour, ta première rencontre avec lui sera filmée, vous pourrez montrer ça à vos enfants. Enfin.
Mais toi, qu'est-ce qui a fait que finalement, justement, t'avais peur de passer à la télé, enfin, t'avais pas envie de passer à la télé, et qu'est-ce qui a fait que t'y allais, t'as envoyé cette lettre et puis t'étais partie, sans que je connaisse la fin encore.
Parce que c'est absolument absurde ce que je veux dire, mais je pense que je suis une vraie romantique, parce que je suis tombée amoureuse de ce gars-là en voyant, quoi. Très rapidement, la phrase de « je l'aime » est venue très, très vite dans ma tête.
Okay.
Et je me sens vraiment ridicule aujourd'hui, vu la fin de cette histoire.
Ok.
Mais j'ai ressenti une évidence folle.
Ok.
Et encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Et donc, le jour où il recevait son courrier, j'envoie juste un petit message pour lui dire bon courage pour cette journée.
Ouais. Donc là, quand il reçoit le courrier, il est filmé, c'est le début un petit peu.
Voilà, c'est le début de son aventure. Donc je lui dis voilà, bon courage. Surtout que lui, deux jours avant, il m'écrit pour me dire bon, j'ai écrit à la prod pour savoir si t'étais bien dans mes courriers, c'est bon, t'es bien dans mes courriers et tout.
Ouais.
Donc je suis là, il pense à moi et tout. Surtout qu'on avait parlé de choses. Il voyait quand même mon travail, il voyait que j'étais féministe, donc il était quand même sensibilisé à tout ça. Même lui, on en avait parlé, donc je savais que là-dessus, ça allait. Et donc, ce message, il ne me répond pas, il me laisse en vue. Je me dis, attends, pas d'inquiétude. Grosse journée de tournage. Ouais. Le mec, d'un coup, il voit toute une équipe de M6 débarquer chez lui et tout. Il reçoit 100 lettres de meuf à la meuf folle de lui. Faut l'intégrer, donc je le prends pas mal. Et l'équipe de prod te donne une date où ils vont te contacter si t'es prise. Par contre, si t'es pas prise, ils te contactent pas.
Ah ouais.
Ouais.
Ok.
Et la meuf de la prod m'avait dit, avec qui on s'était très très bien entendu, m'avait dit bon, mais dans tous les cas, je t'enverrai un message sur Instagram. Okay. Le lundi arrive, donc tout un week-end passe sans réponse de mon message. Le lundi arrive et c'était cette date-là que la prod devait me rappeler pour me dire comment ça se passait après pour le speed dating.
Ouais.
Et la journée passe et j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Il se passe rien. Je me dis putain. Qu'est-ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Même si j'avais envisagé l'éventualité qu'ils ne me choisissent pas, ça me paraissait quand même un peu fou, quoi.
Oui, vu votre lien et vos échanges.
Ouais, ça me paraissait un peu fou. Et vers 17h, j'écris un message à Louise de la prod et je lui dis, écoute, j'ai pas de nouvelles. Est-ce que je dois comprendre qu'il ne m'a pas choisi ? Et elle me dit, Sébastien, t'as pas écrit ? Non, Sébastien ne m'a pas écrit. Non. Et en fait, il ne m'avait pas choisi. Il ne m'avait pas choisi parce que... et donc là encore, merci les hommes de penser à notre place. Parce que c'est ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, je te vois pas quitter ta vie à Paris pour venir te perdre dans mon village dans les montagnes. Mais d'où tu te permets de décider à ma place,
tu te permets, et après vos échanges, pourquoi t'essayes pas ?
Non mais grave, pourquoi tu m'as pas déjà posé clairement la question ?
Ouais.
Et là, vraiment, j'ai eu tellement mal au cœur. Et encore, là, quand je te parle, c'était il y a... Là, cette semaine, ils sont à la ferme, parce que du coup, j'ai les dates. Donc, je sais que cette semaine, ils sont à la ferme avec ses prétendantes.
Ça veut dire que tu vas regarder l'émission ? C'est chaud, quand même.
Je sais pas. Je sais pas, parce que j'espère voir l'émission et me dire, oh là, en fait, quel connard.
Ouais.
J'espère trop regarder l'émission et me dire, mais en fait, mais quelle inadaptée sociale, ouais, quoi, ouais. Mais quel connard, quelle enflure, mais waouh, j'ai eu tellement raison de ne pas le rencontrer, quel bonheur.
Ouais, ouais.
Et donc j'ai envie de regarder l'émission pour ça.
Okay.
Et à la fois, je pense que mon cœur va exploser quand je vais le voir rencontrer d'autres femmes.
C'est ouf quand même.
C'est très troublant de ressentir ça pour quelqu'un ouais. que tu n'as pas rencontré.
Ouais, c'est ça.
C'est très troublant. Et ça me blesse tellement de savoir qu'il est avec d'autres femmes là en ce moment à la ferme. C'est horrible, hein, c'est vraiment bizarre de dire ça. Ça fait vraiment pathétique. Hein.
Non, ça fait pas pathétique. T'as eu un vrai coup de cœur.
Ouais.
Et t'y as cru. Il y a eu des ouais. échanges. Il y a eu tout un truc qui a fait que t'y as cru.
Ouais.
Et ça s'est pas passé. Et le gars n'a pas assuré. Quand non. elle t'a dit, Sébastien ne t'a pas écrit, ben non,
non,
en fait.
Il aurait dû m'écrire.
Sébastien, t'aurais dû écrire.
Donc ça, tu vois, ça m'a quand même conforté de me dire, bon, ok, c'était un lâche quand même.
Oui.
Il a même pas eu le courage de m'écrire lui-même pour me dire qu'il m'avait pas choisi.
Non, mais en plus, le gars a demandé si la prod avait bien reçu la lettre, ouais. machin. Tu vois, il était ouais. quand même chaud, quoi.
Et là, tu vois, pendant ce mois-là entier, j'ai pas du tout fréquenté d'autres hommes. De toute façon, ouais. je pouvais pas. Je ne pensais qu'à Sébastien. Je me voyais déjà. Je m'étais projetée. J'avais regardé où est-ce qu'il habitait. J'avais regardé le village où il était par rapport à la situation ouais, en Corse. Où est-ce que c'était? Comment je pouvais m'organiser pour le taf? J'avais déjà.
Ouais, bah oui,
parce que
bien.
Je voulais pas lui faire perdre son temps. Donc je m'étais beaucoup projetée dans sa vie, de comment je pouvais l'aider sur son exploitation, etc.
Et il t'avait pas demandé ça, justement? Le fait, enfin, son explication, c'est que voilà, toi tu viens de Paris et tout, tu te serais pas adaptée. Il t'en avait parlé de ça ou pas du tout? Avant, lors
bah,
de vos échanges
avait, au tout début de nos échanges, je lui avais exprimé que moi, mon rêve, c'était de travailler avec les chevaux, d'ouvrir une structure avec des chevaux où je pourrais accompagner des personnes atteintes de dépression et de burn-out. Mmh. Donc il le savait, mais après je pense que peut-être c'était au tout début de nos échanges, donc peut-être qu'il l'a oublié.
Ouais.
Je sais pas. Mais
Et lors de ces lettres, ils choisissent combien de personnes?
10.
Oh ouais, bâtard quand même.
Ouais. C'est genre.
Ça méritait une rencontre, tu vois.
C'est... Mais après voilà, si je me dis bon bah si j'étais pas dans les 10, c'est que il y a eu 10 filles qui ont plus que moi. Et tu vois, on revient à ce truc de putain, je mérite pas l'amour, quoi. Personne veut de moi en fait.
Ça se trouve, il va passer la semaine à la ferme et puis il va se dire en fait, je vais rencontrer une meuf, c'est toi.
Ça arrive souvent. Hein.
Ouais, c'est déjà arrivé. Ça mais du coup, c'est des meufs qu'ils avaient rencontrées lors des speed dating quand même.
Pas forcément.
Ah ouais.
Non, ça arrive souvent dans l'émission qu'on les voit arriver au bilan avec une autre fille qui leur avait écrit une lettre. Ou...
Moi, oui, c'est vrai. Ouais.
Moi, par contre, il est très clair que si mon contact.
C'est mort.
C'est mort.
Si ouais, ça contact, t'a fait trop de peine.
Si mon... Là, ouais. Mais tu vois, ça m'a encore. Ça m'a encore rajouté un truc dans mon bagage de me dire, mais putain, mais je ne mérite pas l'amour. Personne, enfin... Et j'étais vraiment en pleurs quand j'ai appris la nouvelle. Enfin, je me suis même filmée en pleurs, etc., sans expliquer exactement ce que c'était. Mmh. Mais je me suis vraiment dit, mais personne ne saisit la personne que je suis, quoi. Parce que je sais que je suis un profil qui peut être très complexe à saisir. J'ai l'air très confiante, très assurée, je suis là avec mes tatouages.
Ouais.
Je suis plutôt une jolie fille, voilà. En plus, j'ai des formes et tout, donc il y a un délire de... la meuf qui arrive, quoi.
La meuf est là.
Voilà, exactement. La meuf est là.
Ouais,
donc, je dégage quelque chose qui peut être intimidant. Ouais. Ça, je m'en rends compte parfaitement. Mm. Mais derrière ça, je suis d'une sensibilité folle. Je ne dis pas que je suis une personne parfaite. Ça, vraiment pas.
Ouais, ouais.
Par contre, je suis d'une sensibilité folle. Je suis d'une grande douceur. Il y a autre chose derrière tout ça. Il y a aussi la petite fille que je suis en intérieur. Et je ne suis pas juste une meuf qui arrive avec ses gros seins et ses tatouages et sa gueule un peu atypique, on va dire. Et ça, il n'y a pas d'homme qui le discerne. Il n'y a pas d'homme qui discerne la douceur qu'il y a derrière. Il n'y a que des hommes qui discernent un peu cet objet de sexualité que je peux représenter. Tu vois, par exemple, j'ai des copines qui me le disent des fois en rigolant, et tu te dis, ouais, c'est à moitié rigolo, qui me disent, ouais, mais toi, Leslie, aussi, quand t'arrives dans une pièce, tu dégages un truc de cul, les hommes, ils te regardent et tout.
Chaud.
Et t'es là, genre, ouais, je dégage un truc de cul, bon. Elle le pense comme un compliment, quoi. Hein.
Ouais.
Tu sais, par exemple, je pense à des femmes, par exemple, comme Monica Bellucci. Alors, attends, je ne ressemble pas à Monica Bellucci, mais qui ont un peu ce truc de, il y a une espèce de sensualité, de sexualité qui émane de son profil, de son corps, de ses courbes, de ce qu'elle renvoie. Et donc oui, ça peut être un compliment de dire ça à une femme, mais être renvoyé qu'à ça, c'est un peu douloureux, quoi. Enfin, surtout que je pense vraiment pas que je sois si que je, enfin, je sais pas, peut-être que si je renvoie qu'un truc de cul.
C'est dur à prendre comme réflexion, parce que tu peux pas dire que c'est un compliment. C'est pas genre t'es sensuelle et belle et magnifique avec tes belles formes, tu vois.
Ouais, non, ouais, c'est un peu.
Tourner comme ça, c'est un peu dur.
Ouais, c'est un peu dur, mais je sais que quand j'ai des copines qui me font cette remarque-là, elles le font pour être sympa.
Oui, c'est pour tailler.
Voilà, elles pensent que c'est un compliment, et sur le moment, je le prends pas mal d'ailleurs. Mais c'est juste que j'en ai marre d'être enfermée dans ce rôle-là et je mérite plus. Et j'aimerais vraiment, vraiment qu'un jour un homme fasse le discernement de ce que mon enveloppe corporelle renvoie, de ce que ma personnalité peut envoyer, et de voir aussi que je suis douceur.
Et plein de choses, quoi.
Ben ouais, je suis multiple. Et ouais, ça fait un peu peur, là.
Tu connais le poème « Tu mérites un amour » de...
Oui.
Pourquoi j'allais dire Flavia Coelho ? N'importe quoi, Frida Kahlo. Ça se ressemble, les initiales, mais c'est une chanteuse.
Ouais, ouais, bah il est magnifique.
Je l'aime tellement.
Il est magnifique.
J'ai fait une petite vidéo à un moment où c'était un peu chaud pour moi avec mes copines qui me le lisent, enfin, qui ont enregistré. Je te l'enverrai et il fait trop du bien. Quand j'ai un petit moment un peu dur, je le regarde.
Incroyable. Hein.
Et t'es là, genre, bien sûr, je mérite un amour. Ouais. Tu vois, comme tu disais, je mérite pas l'amour, en fait. Évidemment que tu mérites l'amour.
Ouais, mais c'est quand même. C'est douloureux. Pareil, il y a ce petit poème de Rupicor qui dit voilà, j'ai envie d'un amour qui me porterait. Enfin, j'ai plus les mots exacts, mais qui est un poème qui est d'une violence et d'une beauté à la fois assez folle en quelques lignes, quoi. Et je me retrouve tellement là-dedans et je me dis mais c'est ça que je veux. Ouais. C'est ça que je veux, mais est-ce que ça existe même ? Et puis il y a aussi la notion que moi j'ai perdu mon grand amour.
Ouais.
Rodolphe, ça a été l'amour de ma vie. Ça a été. On rigolait, on était meilleurs amis, on était amoureux, on partageait tout, on était fusionnels. Donc il y a aussi cette notion-là de se dire, bah attends, j'ai déjà eu la chance de vivre ça une fois.
Oui, okay.
Et il y a des gens qui ne vivent même pas ça une fois dans leur vie. Est-ce que mon amour, c'était celui-là, et il n'y en a plus d'autres. Même si tous les amours sont différents, un amour fou comme ça, je ne sais pas si je le revivrai un jour. Et ça, c'est très dur de se dire, peut-être que ça y est, je l'ai eu, et que c'est fini, peut-être que mon quota d'amour est épuisé. Voilà.
Comment tu t'imagines dans 5 ans ? Qu'est-ce que tu veux pour toi ?
Alors, entre ce que je veux et comment je m'imagine, il y a tout un gap. Ce que je veux, je veux continuer à faire ce métier que je trouve absolument formidable et qui m'offre une grande liberté. Et voilà. Et ce que je rêve, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés, d'avoir un enfant, d'avoir une famille, de plus avancer seule dans la vie, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de mère, j'ai pas de père, j'ai pas de grands-parents ni de frères et sœurs. Donc c'est quand même très compliqué à assumer comme vie. Voilà, je rêve de choses très simples. Je rêve pas d'être millionnaire. Je rêve pas d'être la plus grande influenceuse du monde. Je rêve juste d'être aimée et d'aimer sincèrement ma famille en retour. C'est de ça dont je rêve. Mais par contre, où est-ce que je me vois ? C'est très différent. Je pense qu'en 50 ans, ma vie n'aura pas tant changé que ça. Je pense que je continuerai à faire des projets pro fous. Je pense que peut-être j'habiterai plus en France, peut-être que j'aurai déménagé dans un autre pays ou dans une autre ville. Mais je pense que je serai toujours très seule.
Tu as une vision plutôt pessimiste par rapport à l'amour pour l'avenir ?
Ouais. Je vois plus comment ça pourrait se résoudre là.
T'as pas des moments quand même où tu te dis si ça va arriver ?
Non. Non, j'ai plus de moments.
Et moi, si je te le dis, ça sert à quelque chose ou pas ?
Non.
Je sais que non, mais je te le dis quand même.
Non, malheureusement. Là, je suis vraiment dans ce truc où je me dis, putain, plus personne ne me regarde, quoi. Et je parle pas physiquement, les hommes me regardent. Quand je rentre dans un bar, on m'offre des verres. Et je vois bien que les hommes me regardent. Par contre, aucun homme ne me regarde avec de l'amour et de la tendresse. Ça, je me rappelle pas de la dernière fois qu'un homme m'a regardé avec... avec de la tendresse. Je me rappelle pas la dernière fois qu'un homme m'a embrassée avec de la tendresse. Tu vois, là, par exemple, je regardais Marie au premier regard.
Parles de qui ? Parce que je regarde toutes les émissions tous les lundis soirs, bien sûr.
Je retiens pas leur prénom, mais celle qui a une grosse bouche et les taches de rousseur, qui est avec un mec qui vend des voitures.
Ouais, je vois bien.
Tu vois, au mariage, il danse et il l'embrasse et il met sa main sur sa joue comme ça pour tenir son visage en l'embrassant. Et ça m'a fait pleurer. Je me suis dit, mais je rêve que quelqu'un me regarde dans les yeux avant de m'embrasser et qu'il prenne mon visage en m'embrassant pour me dire genre, putain, t'es belle, je suis heureux de ce moment-là. Je me rappelle pas la dernière fois que quelqu'un m'a embrassée comme ça. Je pense que ça se compte en années. Je pense que ça se compte en années. Je me rappelle pas la dernière fois que je me suis réveillée dans les bras de quelqu'un avec tendresse. J'ai eu des rapports sexuels. Parce que ça comble le vide. Et il faut bien combler un peu ce besoin de rapport charnel. Enfin, je couche avec des hommes même plus pour le sexe, je couche avec des hommes pour sentir un rapport, un toucher corporel pour que quelqu'un me touche. Parce que je me suis rendu compte, il y a un moment où je couchais plus du tout avec personne. Et même quand un médecin me touchait, ça me faisait pleurer tellement j'avais plus l'habitude. Aujourd'hui encore, Quand quelqu'un me touche, c'est quelque part très douloureux parce que ça me renvoie au fait que personne ne me touche avec tendresse et amour. Okay. Et ouais, non, quand je t'avais dit que vraiment l'épisode avec moi, il serait pas joyeux,
je t'avais pas menti.
Il y a un mot pour ça, non ? Tu sais, le manque de tendresse, de la carence affective. Je sais plus.
Mais c'est la misère affective.
Peut-être.
Ouais, moi, clairement, je peux dire que je suis dans une misère affective immense.
Ouais.
Et là, ça fait peur parce que ça rend la rencontre encore plus complexe. Parce que là, va rencontrer quelqu'un et lui mettre le poids de cette carence affective sur les épaules. Là, c'est quelque chose.
Oui, mais peut-être que ce serait quelqu'un qui aura cette carence aussi. Et alors là,
on est mal
ça
parti.
Ça va y aller.
Donc ouais, non, je...
Mais en parlant de marier au premier regard, tu veux pas te marier par hasard au premier regard avec un inconnu
alors, à Gibraltar bah, franchement, il y aurait pas, parce que les castings pour marier au premier regard et l'amour est dans le pré sont quasiment en même temps.
Il y a pas l'amour à Paname sinon. Il faudrait lancer ça. L'amour à Stalingrad.
Mais grave. Mais ouais, le casting quasiment en même temps. Et s'il n'y avait pas eu l'épopée de l'amour est dans le pré, je me serais inscrite au casting de Marie au premier regard.
Ah ouais, trop bien. Eh ben vas-y.
Bah là, c'est trop tard.
L'année prochaine ?
L'année prochaine, je vais m'inscrire, ouais. Ah ouais, non, l'année prochaine,
trop bien. Ça doit être ouf quand même comme expérience.
Ouais.
Mais il n'y a plus, je ne sais pas si tu te souviens, les premières années, tu avais un truc un peu chelou, mais moi j'aimais bien, où ils sentaient les odeurs.
Oui,
ils sentaient les odeurs des t-shirts et je trouve ça trop important, tu vois, l'odeur.
Ah, c'est très important.
Et tout de suite, tu sais si waouh.
Je ne sais pas s'ils le font encore, ça.
Et
coup.
Ils ne le font pas parce que c'était au début des émissions, tu vois, les présentations.
Peut-être qu'ils ne le filment pas, mais qu'ils le font
ils
encore.
Ils le diraient quand même. Je pense que c'est trop de trucs d'avoir un t-shirt que tu dois porter, pas laver, machin et tout.
Ah, je sais pas.
Mais j'aimais trop ce principe. J'étais là. Ouais, ça veut dire beaucoup quand même.
Ouais, là, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que c'est moins basé sur la science. J'ai l'impression quand même que.
Bah, on te le répète à gogo, mais oui.
J'ai l'impression que là, c'est quand même plus des castings.
Ouais. Et trucs d'influenceurs après quand tu les vois sur Insta. Et
ouais, j'ai l'impression que c'est plus des castings que vraiment des matchs.
C'est
des
moins
matchs,
authentique.
Ouais, c'est moins authentique. Même s'il y a des couples où tu vois que clairement ça match. Hein. Cette saison, on a des très beaux couples.
Grave,
hein.
À fond.
Cette saison, elle est très bien. Cette saison, ils ont été forts sur le casting, franchement. Très, très bonne saison. Mais en plus, à partir de l'année prochaine, il va y avoir des couples homosexuels.
Bah
on
oui, il serait temps, c'est cool.
Bah
quand
ouais.
même. C'est ce que je me
ouais, j'ai un pote qui a essayé de participer au casting, il a pas été recontacté.
Okay.
Enfin, il a été contacté une fois, mais pas pour l'étape après.
Et c'est la meuf du casting de L'amour est dans le pré ou rien à voir ?
Alors, je crois qu'elle bosse avec une meuf qui s'occupe, parce que c'est la même boîte de production.
Bah ouais.
Donc, je crois qu'elle bosse avec une meuf qui s'occupe du casting de Marie au premier regard aussi. Okay. Mais oui, l'année prochaine, je m'inscrirai.
Putain, ouais. Si tu t'inscris, tu participes. Et c'est moi qui vais pleurer devant la télé. Là, quand il y aura le geste, j'étais là. C'est ça qu'on attendait, putain. Attention, sois sérieux, mon pote. Je parlerai à ma télé.
Que tu seras invité au mariage.
Ça serait ouf. À Gibraltar, j'ai pas compris leur délire.
J'ai pas compris le délire avec Gibraltar. Surtout vraiment.
Je crois que c'est un bail de Covid, tu vois. Ils ont dû
partir. Ouais,
parce que
la
France.
C'est vraiment bizarre, quoi.
Ils sont là à parler en anglais, tu sais. Yes, I want. Okay.
C'est super bizarre. Ça casse un peu la cérémonie, je trouve.
Ouais.
Mais vraiment, très belle saison. Ils ont été forts cette saison, franchement.
Trop bien. Ah, écoute, j'ai trop hâte de te voir. Inch'Allah, l'année prochaine. Merci beaucoup, Leslie.
Merci à
C'était
toi.
C'était trop bien. Je suis trop contente de t'avoir eu. C'était trop intéressant. Et ça parlera sans doute à beaucoup de meufs qui nous écoutent. Bah, donc, merci. Faire. Et je te souhaite tout le meilleur à venir.
Merci beaucoup.
Et on peut te retrouver sur Instagram. Je mettrai tes réseaux partout. Trop cool. Merci.
Je t'avais dit que ça n'avait pas été joyeux. Hein.
Ouais, mais c'est très bien.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.